France Inter.
Ah bah oui, cher Corinne Audouin, Francis allait chez lui à Montpellier, il y vit depuis 50 ans. Vous allez voir, c'est un joli moment. Rendez-vous à 15h avec vous.
Le grand public est un interlocuteur qui me plaît bien, parce que
CO2, mon amour.
On met une petite graine et ça fait son chemin. Puis quelques années après, on s'aperçoit qu'ils ont réellement digéré tout ça et qu'ils ont amélioré leur vision du vivant. Non, ça, je crois qu'on peut être assez optimiste avec ça. Je pense que le Covid a beaucoup aidé cette cause-là. Le confinement est fou.
Avec Denis Chessou.
On n'avait plus d'avenir. Donc, un art, c'est de l'avenir parce que ça dépasse tellement notre durée de vie que pour nous, ça n'a pas d'âge.
Sur France Inter.
Eh bien, déjà des paroles qui nous font du bien de Francis Allais, excellent pédagogue. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Clément Berman à la technique, Pierre Chabert est notre assistant et Andrea Lechêne réalise l'émission. Commence toujours par une petite humeur. 8848 mètres. Ah, c'est bien la peine de m'être hissé aussi haut grâce aux plaques tectoniques qui ont fait le boulot. Alors évidemment, ça a gondolé tout le paysage et ça vous a donné 2400 km d'Himalaya. Je continue toujours à gagner de la hauteur, remarquez bien. Et durant des dizaines de millions d'années, je n'ai vu personne. Et il fallait le temps que vous sortiez de votre coquille de sapiens et de fabriquer anorak et piolet. J'avais les nuages pour frères et les tempêtes pour compagnes. 29 mai 1953, il faisait beau et ils ont réussi. Qui ? Un sherpa indien et un apiculteur néo-zélandais ? Et moi, l'Everest, j'ai laissé faire. Ça me faisait plaisir quand même de voir du monde. Je n'avais aucune idée de ce qu'était un humain sur ma tête. Enfin si, en 1924, Irvine et Mallory avaient réussi, mais je les ai ensevelis. Ils dorment sur un de mes flancs. Et 70 ans plus tard, après la grimpette de Hillary et Norguet, eh bien, il y en a partout sur mon arête sommitale. Allez, à touche-touche, ils prennent un ticket à 50 000 euros et je deviens un passe-temps pour touristes fortunés. Je suis une nouvelle victime du tourisme de masse, avec un taux de mortalité autour de 3%. Ah bah ouais, moi je suis un gars raisonnable, hein, je tue très peu. Les voisins à Annapurna et K2, ils dépassent à l'aise les 25% de pertes. N'empêche, je suis devenu, avec mon camp de base à n'en plus finir, une merveilleuse poubelle. Merci les humains. Le roi Khéops vous a laissé sa pyramide, les ingénieurs romains le pont du Gard, les moines bénédictins l'abbaye de Cluny, les architectes du XIIe, XIVe siècle une dentelle de pierres de cathédrale, le facteur cheval son palais idéal, et vous laisserez à ceux qui viendront de magnifiques décharges. D'ailleurs, entre vous, bah, il vous arrive même de vous traiter d'ordure. Comme pour les tumulus des princes vikings, il faudra creuser profond pour retrouver la trace de notre civilisation humaine enfouie sous les sacs plastiques, écrans et vieux frigidaires. Ouais. Une seule vie d'homme et de femme aura donc suffi pour transformer plaines, rivages, océans, sommets en vastes dépotoirs. Du delta du Mékong au sommet de l'Everest, les restes de notre belle société décadente qui s'essuie sur la Terre comme sur un paillasson. Alors quel alpiniste chevronné ou pas, qui monte avec effort ses équipements en plein, est incapable de les redescendre ? Oh là là, on en a comme un mal des montagnes. Alors oui, il y a 70 ans, on grimpait sur mon dos. Je n'étais plus vierge, je suis devenu une conquête, une fierté, une ligne de plus sur un CV, un métier pour Sherpa népalais. Mais je ne mérite pas vos fientes d'humains, ni votre indignité, c'est tout. Alors fêtez-le entre vous, cet anniversaire des 70 ans de conquête. Moi, je vais fêter les mères que je domine au loin. Oui, bonne fête donc les mers. Et je vous laisse aussi avec les défis en cours, l'eau qui s'évapore, les esprits qui se réchauffent. De bord, bien sûr qu'il faut que l'on vire. Vivre demain dans une cocotte minute avec un vivant malmené, eh bien oui, ces défis sont votre Everest commun à gravir. Un seul sujet avec un vrai beau personnage, donc Francis Allais, à Montpellier. Et oui, et donc, mais l'aventure naturaliste, tenez, écoutez, elle commence en Île-de-France pour Francis Allais.
Je suis né en Seine-et-Marne.
Voilà.
Oui, et mes parents avaient un petit terrain de 2 hectares avec une vieille maison. Et c'est là qu'on a passé la guerre. Et comme mon père était agronome, et ben il nous a nourris largement pendant toute la durée de l'occupation. Et on pouvait même aider les voisins.
Parce qu'il y avait le jardin.
Mais parce qu'il savait le faire aussi, un agronome.
Oui, oui.
Parce que si on donne ce bout de terrain à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, ça ne marchera pas.
Donc c'est quand même là, la première ouverture au bois, aux forêts, c'était Seine-et-Marne.
Oui, c'est ça. Et évidemment, il fallait se chauffer. Et donc mon père nous a appris à abattre les arbres qu'il fallait, à les amener, à les découper, à les scier, à les fendre et à se chauffer avec. Donc j'ai gardé, moi, une sympathie pour les arbres depuis cette époque-là. J'ai compris que c'était vraiment des alliés.
Quand je l'ai vu arriver sur ma canopée pour la première fois en 1986 avec sa casquette et son radeau des cimes, eh ben on s'est regardé avec les copains arbres de forêt tropicale. Ah, chapeau, monsieur Allais, un vrai grand botaniste qui vient chatouiller nos feuilles et nos insectes en nous montrant qu'il nous aime. Bah ouais, c'est un chercheur, donc il nous a étudiés, partageurs, avec différentes équipes. Et l'homme est persuadé que les plantes, arbres, représentent avec l'altérité absolue des formes de vie extrêmement avancées. Et puis il est allé travailler un peu partout, en parcourant les traces de Darwin. Au départ, c'est intéressant, parce que Francis Allais est un Breton, un fou de mer, avec sa femme Odile, moniteur au Glénan, ouais, il aime mettre les voiles. Il avait un grand-père, d'ailleurs, qui était peintre de l'école de Pont-Aven. Et aujourd'hui, donc, c'est un prince, c'est un seigneur des anneaux, des arbres, un gamin de 85 ans, faiseur de vie, amoureux d'elle. Alors, il est quand même assez affligé par ses contemporains, hein, et beaucoup d'élus qui découpent les arbres des villes sans véritable raison. Il a enseigné à Montpellier, là où Rabelais fit sa médecine. Il y vit, il aime cette ville de l'Hérault, vous allez le comprendre. Tout ceci, d'ailleurs, est très bien raconté dans un ouvrage signé Dominique Agnel, qui s'appelle Francis Allais, Les vies heureuses du botaniste, donc une biographie aux éditions Actes Sud. Le Montpellier de Francis Allais, son jardin, un bout de vie, surtout de partage avec cet homme qui était un peu incapable de me vouvoyer, c'est pas grave. C'était la semaine dernière avec Francis Allais à Montpellier.
Il y a un aqueduc qui amenait l'eau depuis ici jusqu'à la ville. Un aqueduc construit par Louis XIV.
Et c'est le Montpellier,
alors, c'est le Montpellier.
D'accord.
C'est pas une grande montagne, hein, mais enfin...
Non, absolument. Nous avons un chêne qui nous ouvre ses bras. C'est un gamin quand même, hein.
Il a bénéficié du fait que pendant la guerre, tout ça a été cultivé et donc il a une terre excellente. C'est une époque où il n'y avait pas d'intrants.
Bon, et donc il a à peu près, il a un peu plus de 100 ans, on va dire.
Ouais. Moi, je dirais 100 ans, mais enfin, bon, c'est pas à 10 près.
Hein. Non, c'est pas à 10 près.
Il est magnifique, hein. Il a un équilibre qui est parfait. Ouais. Une grande beauté, cet arbre-là.
Et puis, il y a donc...
Les chênes, ça me fait marrer. Je vais te dire pourquoi. Quand tu demandes quel est l'arbre symbole de l'Europe, on te dit le chêne. Il n'est pas d'ici, il vient de Bornéo. Le genre Quercus est originaire de Bornéo.
Alors il est vrai que Montpellier, en fait, ça commence avec deux villages. Hein. Donc il y a le Montpellier, il y a le Montpellierais. Et en fait, cette ville, elle arrive dans l'histoire du côté du Xe siècle. Hein, parce que...
C'est pas vieux, oui.
Ah, oui.
Dans la région ici, il y a plusieurs villes romaines.
Oui,
celle-ci,
bien.
Pas du tout.
Si on fait le lien avec les plantes, c'est que après on s'est mis quand même sacrément à commercer donc, avec l'Orient. Et là, nous avions eu donc, les marchands d'épices et de plantes tinctoriales qui connaissaient les vertus thérapeutiques des plantes.
C'est vrai qu'au début, la médecine ici, c'était les soins par les plantes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le jardin botanique de Montpellier était initialement un jardin de plantes médicinales. Et donc depuis l'origine, il a appartenu à la faculté de médecine. Je ne veux surtout pas dire de mal de la faculté de médecine de Montpellier. Simplement, ils ne sont pas botanistes.
Ah oui.
Or, ils sont chargés du jardin des plantes de la ville. Eh ben, je vais te dire, si tu me charges d'un hôpital, il va y avoir beaucoup de décès.
Oui. Et puis, tenez, on a la place de la Comédie qui est bien connue et qui fait vraiment la liaison entre l'ancien Montpellier
et le nouveau.
Et le nouveau.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Il y a quand même, là, cette esplanade avec des platanes. On va dire que c'est forcément hyper original, mais il y a beaucoup de Montpelliérains y vont, quoi.
C'est vrai. L'originalité, c'est que certains de ces platanes servent pour des plantes épiphytes. Les gens s'en aperçoivent pas. Mais tout d'un coup, une moitié du platane a des feuilles complètement différentes.
Mmh.
C'est un arbre épiphyte, généralement une moracée, des mûriers ou des figuiers.
Tu veux qu'on descende ?
Ah bah oui !
Allons-y.
Allez, on y va. Bah, y a un jardin à visiter, on va le faire.
Oh, puis là aussi, là c'est le jardin intérieur, là.
Tout ça, des plantes tropicales, bien sûr.
Et oui, parce que donc, il y a un avant et un après le tropicalisme, quand même, chez Francis Allais. Il y a eu quand même ce truc incroyable. Vous avez fait votre carrière aussi, donc...
Il n'y a pas eu beaucoup d'avant.
Oui, ah bon.
J'y suis allé dès que ça a été possible.
Ah, c'était ça.
Et les tropiques, pour moi, ça reste... Sur une carte du monde, ça reste la partie la moins connue, la plus méprisée, mais de très loin la plus intéressante. D'ailleurs, l'être humain est originaire de là.
Et l'être humain, il est aussi arboricole. C'est-à-dire que nous sommes...
Ah ben, c'est des primates arboricoles, enfin, comme tous les primates, quoi.
C'est-à-dire que quand on est gamin et que l'on grimpe dans les arbres, qu'on essaie de grimper dans les arbres, on fait que retraduire ce que nous avons toujours été, non ?
C'est ce que nous... Oui, notre instinct nous pousse à faire ça. Et j'aime beaucoup voir les gamins grimper dans les arbres. J'étais horrifié quand on a coupé les arbres dans les cours d'école, mais on a assez vite compris que c'était une bêtise parce que maintenant ils en replantent.
Moi, tu me fais mettre en prison ?
Ouais, monsieur.
Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le droit d'arracher les arbres des autres.
Mais ils sont plus à toi, ces arbres, maintenant.
Mais est-ce qu'il ne faut pas non plus replanter des arbres dans les esprits ? C'est en train de se faire, d'ailleurs.
Là, il y a une vraie raison d'optimisme. Une conférence sur les arbres il y a 15 ans, 20 ans, pouf, il y avait quelques spécialistes qui venaient, c'est tout. Tandis que maintenant, la salle est pleine, il faut mettre des chaises et il y a des gens debout dans le fond. Ah, il y a un goût pour l'arbre qui est très remarquable. Ça, pour moi, ça me fait vraiment plaisir.
Ça rassure l'arbre, qu'est-ce que c'est ?
Oui, je pense que ça rassure. On est dans une très mauvaise période avec le changement climatique et tout ça. On se raccroche à quelque chose de solide.
Ouais.
Et qui est extrêmement bien placé sur le plan écologique. Ça nous mène aux arbres.
On descend. Alors, il y a des tableaux et des gravures de plantes un peu partout. Là, on a Papaver roeas. Bah oui, ça s'appelle un coquelicot, hein, c'est ça. On fait des malins, mais bon, ça s'appelle un coquelicot. Attendez, bougez pas, j'ouvre. Voilà. Hop. Et alors là, nous sommes quand même dans votre forêt-jardin, sur cette terrasse. Et quand je regarde un arbre, je ne vais pas chercher son organe central, il n'y en a pas ?
Il y a très peu d'organes. Tige, racine, feuille, c'est ouais. Tout. Pas la peine d'en chercher d'autres. Alors on me dit, oui, mais les fruits. Non, désolé, les fruits, c'est des feuilles modifiées. Les fleurs, c'est des feuilles modifiées. Tige, racine, feuille, c'est tout. Alors comment ils font pour vivre avec trois fonctions ? Parce que pour nous, êtres humains, il y a une fonction par organe. Nous, on a une centaine d'organes. Donc on est fiers de ça et on a une centaine de fonctions.
Mais on est aussi peut-être plus fragile.
Ah non, certainement, oui. Oui, parce que dans ces organes, dans cette centaine d'organes, il y a des organes vitaux. C'est clair que si on te coupe la tête, c'est terminé. Oui. Tandis qu'un arbre, tu peux couper ce que tu veux, ça fera deux arbres.
Là, vous respirez le rosier.
Parce que ça fait partie de la beauté. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Il y a aussi ce qu'on sent et il y a ce qu'on entend. Les oiseaux, je les trouve particulièrement beaux par leur chant.
Bon, alors, on est une société qui est née de la forêt, tous. On est tous nés de la forêt au départ, plus ou moins.
L'être humain, là, ouais, l'espèce
ça.
Humaine.
Donc, tout à fait récente,
non ? Pas de la forêt, de la canopée.
Ah, de la canopée.
Ouais. On est des primates canopés. Hein. D'ailleurs, c'est inscrit dans notre structure physique. On a les yeux rapprochés, ça nous permet de voir le relief. Et quand on vit dans la canopée, c'est essentiel de percevoir le relief, parce que si tu veux attraper une branche en croyant qu'elle est devant, en manque de bol, elle est derrière.
Clac, on tombe.
Oui, là c'est l'élimination darwinienne sans aucune hésitation. Ouais. Donc il faut voir très bien le relief. La main, c'est l'engin idéal pour grimper aux arbres. Alors, on l'utilise à beaucoup d'autres choses. Mais n'empêche que ce qu'elle fait le mieux, c'est de saisir des choses comme des branches. Et là, on a la force de monter. Et bien regarde, la glycine qui vient du sol, qui monte sur la terrasse, et ensuite elle monte dans mon bureau.
C'est dingue. Il y a une fenêtre. Bien sûr qu'elles sont là, les racines. Parce que moi, je n'avais pas vu d'où elles partaient.
Du sol.
Ah oui.
Mais c'est rien du tout pour une liane de monter à cette hauteur-là. C'est rien du tout.
Voilà, et donc tous ces végétaux ne savent pas forcément que votre vie est consacrée au vivant. Votre truc, c'est de défendre
j'ai
ça.
J'ai toujours été là où il y avait le plus de vie. Donc après être étudiant, je m'en vais dans les tropiques, c'est normal, je savais bien que la vie c'était là. Arrivé dans les tropiques, je vais en forêt, je savais bien qu'en forêt il y a plus de vie. En forêt c'est très bien, mais le sous-bois, c'est pas encore ça, parce que c'est très sombre et donc il y a peu de plantes au sol, c'est normal qu'il y ait peu d'animaux. Et en levant les yeux, je vois la canopée et là je comprends tout de suite que c'est un balai incessant d'animaux extrêmement brillants et très vifs. Donc je me dis, il faut travailler là-haut. Je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est la coopération, en tout cas les relations entre les plantes et les animaux. Ça, je trouve ça absolument passionnant.
Alors une fois de plus, c'est quand même grâce à la coopération, même si ça se tire gentiment la bourre, que la nature, on va dire, s'en sort. Il faut de la coopération.
Il y a aussi beaucoup de compétition.
Bien sûr. Oui, non, mais on l'a dit pas.
On ne s'en sortirait pas non plus.
Non.
Alors il se trouve que Darwin, il a plutôt insisté sur la compétition parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de coopération. Bon, maintenant, on a une vision plus équilibrée de tout ça. J'en profite pour dire que ça, ce n'est pas un individu, c'est une colonie. C'est à comparer à du corail.
Ah, c'est-à-dire que là, le chêne que vous me montrez, donc,
c'est une colonie. C'est-à-dire qu'il y en a un qui part du sol et qui va jusqu'à 15 mètres, là. Et tout ce qu'on appelle les branches maîtresses, c'est des arbres aussi. C'est un groupe d'arbres, tout ça. Donc, c'est une colonie d'arbres.
En tant qu'humain, on peut dessiner des arbres et des plantes, mais on ne peut pas les fabriquer.
Bien sûr que non, c'est pas les fabriquer. Attends, tu prends là un truc extrêmement compliqué, même un brin d'herbe, on n'est pas capable de fabriquer ça. La photosynthèse, c'est une réaction extrêmement utile sur la planète, mais que nous sommes totalement incapables de reproduire. Ça dépasse de très loin toutes nos compétences technologiques.
Mais alors, est-ce que ça n'a pas été la tentation, enfin, on a dû essayer de se dire, on va essayer de reproduire cette photosynthèse, parce qu'une fois qu'on saurait faire de la photosynthèse, ça veut dire que c'est une capacité quand même d'énergie assez incroyable.
Mais moi, si j'étais biochimiste, je m'occuperais de ça, de refaire de la photosynthèse en dehors de la plante, et ça nous servirait de source d'énergie illimitée, et très peu coûteuse, puisque ce qu'il faut, c'est pas compliqué.
Du CO2.
De l'air avec le CO2.
Ouais.
De l'eau, c'est pas très compliqué.
Non.
Et la lumière solaire, c'est tout.
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à Montpellier? J'irais votre Montpellier à vous. Est-ce qu'on est
C'est
pas loin, mais...
une espèce de quintessence du midi. Voilà. J'aime beaucoup les tuiles romaines. On est une ancienne colonie romaine ici. D'ailleurs, on parle une langue latine et on a des toits couverts de tuiles romaines. Ça me plaît beaucoup. C'est une ville que j'aime bien parce que elle est jolie, elle est facile à vivre. Les gens qui sont là sont heureux d'être là. C'est pas ça partout, hein.
Non. Alors évidemment, ça frappe bien en été, hein, comme partout. Mais peut-être que cette ville-là, là, quand on voit donc ces rues, alors qui ne sont pas moyenâgeuses, on va pas dire ça.
Non, c'est plus récent.
C'est plus récent que ça, mais qui sont serrées les unes contre les autres. Donc
parce qu'il y a une particularité des gens d'ici, c'est qu'ils n'aiment pas le soleil. Dans les Cévennes, c'est typique. Les fenêtres, c'est des espèces de petites meurtrières, comme ça. Les gens, ils n'aiment pas le soleil. D'ailleurs, je ne sais pas si tu vois la maison, mais je peux déduire que l'architecte n'était pas du Midi, mais de l'Île-de-France. Des grandes fenêtres, orientées vers le sud. Là, ici, c'est pas possible.
Ouais,
moi, c'est ce qui me plaît.
Et puis, il y a quand même l'histoire aussi religieuse, hein, protestant, catholique.
Ça a été très important ici. C'est pour n'avoir pas pris parti des protestants, la ville de Montpellier a été récompensée par Louis XIV, qui a fait les arceaux, avec les deux extrémités, qui sont tout de même des choses magnifiques.
Ce qu'on appelle les arceaux.
C'est une conduite d'eau, mais très haute. Hein. C'est un peu comme le pont du Gard. C'est d'ailleurs imité du pont du Gard, qui lui est romain. Et ça menait l'eau à Montpellier, à partir d'ici à peu près.
Donc par gravitation.
Oui, ça coule, on pourrait l'utiliser encore. Mmh. Louis XIV a beaucoup aimé cette ville parce que pour lui, on a joué du bon côté.
Restez avec nous, la balade avec Francis Allais dans Montpellier n'est pas terminée. Ah, tenez, une femme nous attend. Où cela? On dirait un bois.
Il y a un arbre, je m'y colle dans le petit bois de Saint-Amand. Je t'attrape, tu t'y colles, je me cache à toi maintenant. Y a un arbre pigeon vole dans le petit bois de Saint-Amand, où tournent nos rondes folles, pigeon vole, vole, vole au vent. Dessus l'arbre, oiseau vole et s'envole, voilà le printemps. Y a nos 15 ans qui s'affolent dans le petit bois de Saint-Amand, et sous l'arbre, sans parole, tu me berces amoureusement. Et dans l'herbe, jupon vole et s'envole nos rêves d'enfant. Mais un beau jour, tête folle, loin du petit bois de Saint-Amand, et loin du temps de l'école, je suis partie, vole, vole au vent. Bonjour l'arbre, mon bel arbre, je reviens, j'ai le cœur content. Sous tes branches qui se penchent, je retrouve mes rêves d'enfant. Y'a un arbre, si je meurs, je veux qu'on m'y couche doucement, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Amand, qu'il soit ma dernière demeure dans le petit bois de Saint-Oeil. Y'a un arbre pigeon vole, mon cœur vole pigeon.
Alors évidemment, évidemment, ce n'est pas une forêt tropicale ou bien une forêt primaire, donc chère à Francis Allais, dont il va nous parler. Et donc on poursuit ce voyage avec lui donc, à Montpellier, avec ce bonheur des plantes. Et c'est vrai qu'il aime ces plantes parce qu'elles se débrouillent seules et elles améliorent très souvent leur environnement là où elles sont. Bon, les humains, c'est une autre affaire. Allez, on y retourne.
Et ben voilà, ça y est. Ce serait quand même dommage de ne pas visiter le jardin.
Jardin collectif, en fait, Francis.
Et t'as tout le monde.
On attaque, c'est pas la bambouserie d'Anduze, mais c'est pas mal quand même. Hein,
donc... C'est pas mal. Là, il pousse très bien ici, les bambous.
Un coup de chaleur, un petit peu d'eau.
Ils ont coupé un arbre, là. Je vois que les bambous passent au travers.
Ah oui, il est capable de ça.
Ah oui, oui, c'est une pointe d'une force incroyable.
Alors il y a quand même quelque chose dont on pourrait parler ici, sous les tropiques, je dirais n'importe où. C'est ce mot de beauté. Et cette notion de beauté, on va vous dire, scientifiquement, c'est pas mesurable. D'accord, ok.
Mais ça n'a rien à voir avec la science.
Et ben voilà.
Qu'est-ce qui décide qu'on a le droit de se désintéresser de ce qui n'est pas mesurable ? Une grande partie de l'univers qui n'est pas mesurable.
Et c'est ce qui nous fait vivre quand on parle de l'amour.
Regarde simplement le nombre d'étoiles. Tu peux me dire combien c'est ?
Ouais.
Non ?
Ouais.
À 10 millions près, on ne sait pas. Ce n'est pas mesurable. Ouais. Et donc, on n'a pas le droit de laisser tomber ce qui n'est pas mesurable.
Et donc, l'arbre fait partie, vous, de cette beauté ? Est-ce que vous avez à la fois...
Non, pas l'arbre. C'est les détails de l'arbre. Une feuille de ginkgo, par exemple, comme il y en a là, c'est très beau pour moi. Et alors, ce qui me choque, c'est que la science n'en parle jamais. J'ai des tas de bouquins récents. Parce qu'à l'époque de Darwin, on en parlait. À l'époque de Fabre, on en parlait de la beauté. On était dithyrambique. Mais maintenant, plus un mot sur la beauté.
Qu'est-ce qu'il y a eu là ? Ça a été quoi ? C'était le matérialisme qui l'a embarqué ?
Non, je crois que c'est l'ADN. Dès l'instant qu'on a eu la clé de la génétique, les jeunes, ils se sont beaucoup plus dirigés vers des labos high-tech, entourés de gens très gradés, plutôt que de s'emmerder sur le terrain, dans des endroits dangereux, des montagnes épuisantes, des tribus parfois hostiles, etc. Donc, on a laissé tomber la nature. Maintenant, c'est le génome qui marche bien. Alors, le génome, j'ai rien contre, c'est passionnant, attention. Simplement, ça suffit pas.
Vous voyez, de l'autre côté du mur, vous avez un chêne. Il est magnifique. Je l'ai vu pousser. Je me suis longtemps demandé si j'allais le couper. Il était gros comme un pouce. Est-ce que j'allais le laisser ? Évidemment, il allait prendre une place énorme. Il allait m'enlever de la lumière. Mais tout de même, la présence d'un chêne géant, c'est quand même pas mal. C'est quelque chose de divin.
Michel Tournier, donc formidable écrivain, disait que lorsqu'il rentrait dans une forêt, ce qu'il ressentait avant tout, c'était cette espèce de compétition entre les arbres, parce que chacun voulait avoir son bout de lumière à lui. Donc ils se tiraient la bourre les uns avec les autres.
C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais ceci étant, il y en a tout de même qui ont pris le parti de se suffire d'une pénombre, et donc il y a des arbres d'ombre qui ne peuvent pas pousser en plein soleil.
Et en même temps, il y a de la coopération.
Ah, mais bien entendu.
Alors, il y a un homme qui vous en voulait, mais je pense à juste titre, c'est Monsieur Aristote.
Ah, Aristote, c'est pas mauvais, mais quand même. C'est mon ennemi personnel, oui. C'est vrai. Parce que
Il a fait beaucoup de dégâts, c'est 25 siècles en arrière. Il a dit les plantes, ça ne parle pas, ça ne se déplace pas, donc ça n'a aucun intérêt. C'est des formes de vie inférieures.
Allez, circuler.
Et d'ailleurs, si on peut gagner sa vie ou faire fortune en les exploitant, il ne faut pas hésiter.
D'accord.
Malheureusement, Aristote, il a eu un impact énorme sur la civilisation occidentale. L'Église l'a récupéré. Aristote est devenu une espèce d'évangile. Mm-hmm. Donc, encore maintenant, la plupart de nos contemporains, ils pensent comme ça.
Quand on parle des arbres les plus vieux du monde, très souvent les gens vous disent « Ah, ben c'est le séquoia, c'est les séquoias géants ».
Non,
en fait, pas du tout. Il y en a qui, je crois, qui ont 43 000 ans.
43 000 ans, c'est une plante de Tasmanie. Et on en est à 80 000 maintenant. Mais attention, au-delà de 1000 ans, un arbre devient un clone.
Ah.
Alors là, il n'y a plus de limite à son âge, puisque tant qu'il y a de la place et qu'on lui fiche la paix, il n'arrêtera pas de vieillir.
Ce qui veut dire qu'un arbre, en fait, n'est pas du tout programmé pour mourir s'il n'est pas incendié ou abattu.
Alors non, on ne peut pas dire ça parce qu'il y a des arbres qui vivent très peu de temps. Ce qu'on appelle les pionniers, c'est parfois 50 ans, moins qu'un homme.
Eux, ce sont les conquérants.
Oui, c'est-à-dire ils arrivent à pousser en plein soleil. Donc si on rase la forêt, c'est eux qui vont sortir les premiers. Mais ils ne sont pas capables de vivre longtemps.
Mais ils seront là pour fabriquer de la litière, pour
voilà,
les
voilà,
suivants.
Eh bien, ils fabriquent de l'ombre pour les suivants. Et ça, c'est essentiel, parce que la plupart des arbres de forêt ne peuvent pas germer en pleine lumière. Mais les grands arbres de forêt, ils n'ont pas de raison de mourir. Ils n'ont pas de programme de sénescence comme l'être humain, excuse-moi. Hein.
Non, mais nous sommes une obsolescence programmée. Vous faites toujours la différence entre forêt et plantation.
Ah, pour moi, c'est non seulement différent, mais c'est l'inverse l'un de l'autre. La plantation, comme son nom l'indique, il y a des gens qui l'ont plantée. Et c'est pour produire du bois. Donc ça va être détruit. C'est inscrit dans l'origine même de la plantation. Et comme ils ont tous le même âge, ça mène directement à la notion de coupe rase. Et ça, les gens, ils en ont marre. Et puis, alors, il y a plus que ça. On plante une espèce. Et généralement, c'est une espèce exotique. Donc, il n'y a pas de faune. Dans les sapins de Douglas, c'est un arbre magnifique. C'est pollinisé par le vent et les graines sont dispersées par le vent. Donc, aucun animal, ça lui convient à cet arbre-là. Ça ne le gêne pas tant qu'il y a du vent. Et donc, on voit bien que ce n'est pas favorable à la biodiversité animale. Partout où il y a ces grandes plantations de sapins de Douglas, c'est très, très chiant. Il n'y a pas d'oiseaux. Qu'est-ce qu'ils feraient les oiseaux là-dedans? Il n'y a rien à manger. Il n'y a pas d'insectes. Donc c'est plus que différent d'une forêt. C'est l'inverse. Alors on nous dit qu'il y a de plus en plus de forêts en France. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Il y a de plus en plus de surfaces avec des arbres. Mais comme c'est surtout des plantations, il y a de moins en moins de forêts en France.
Oui, c'est pas la même chose.
Ah non, c'est pas du tout la même chose. Mais ça, je comprends bien à qui ça profite, cette confusion.
Ouais.
D'ailleurs, il y a un truc contre quoi je me bats, je n'arrêterai pas de me battre, c'est que la forêt dépend du ministère de l'Agriculture.
Au lieu du ministère, a priori, de l'écologie.
Moi, ouais, ça pourrait être... Il y a des pays qui ont un secrétariat d'État aux forêts, mais ça serait dans l'écologie, ça serait beaucoup mieux placé.
Oui.
En tout cas, le mettre dans l'agriculture, ça traduit une idée derrière la tête qui me déplaît profondément.
Ah bah, elle est directe, c'est-à-dire que c'est de l'exploitation. Le paysan est devenu un exploitant agricole et donc on est aussi un exploitant forestier, c'est ça que ça veut dire?
Bah, quand il a besoin de plus de terre, il déforeste un peu plus. Il l'a trop fait puisque maintenant on est obligé d'abandonner les terres agricoles.
Ouais.
La déprise, c'est ça.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville.
Alors aujourd'hui, on nous dit, voilà, planter des arbres.
C'est idiot de planter des arbres, je vais te dire. C'est idiot.
Alors racontez, parce
si tu
que
veux,
là, les gens ne vont pas comprendre. Donc,
Oui, non, mais attends, c'est important.
Ouais.
Les plus beaux arbres qu'on peut voir, c'est en forêt. Ils sont venus tout seuls.
Ça, d'accord.
Personne ne les a plantés. Mmh. Ils se sont semés tout seuls. Et donc, si on veut avoir des beaux arbres dans l'avenir, il ne faut pas planter, il faut semer. Tu auras certainement remarqué que quand on achète un plant, un jeune plant d'arbre. Les racines ont été coupées. Ils ne peuvent pas trimballer 3 mètres carrés de surface racinaire.
Et c'est là que la vie...
Couper les racines, ça ne sera jamais récupéré. Tandis qu'une graine... Bon, sur le plan politique, ça n'a aucun avenir parce qu'on ne voit rien. On va dire au gars, mais qu'est-ce que ça fait avec notre fric ? On ne voit rien. Bon, reviens 10 ans après. Hein ? Eh bien, celui qui a été semé, il sera 4 fois plus haut que celui qui a été planté, en espérant que celui qui a été planté n'est pas mort. Mais très souvent, il meurt. On a coupé les racines.
Alors, ce qui est formidable avec le gamin que vous êtes, Francis Allais, c'est que vous faites un pari donc sur l'avenir. Alors, cette belle idée, c'est donc la création d'une forêt primaire qui serait...
En Europe de l'Ouest.
Alors, en Europe de l'Ouest, oui, puisque... à cheval sur 2 pays.
C'est un projet européen, donc il faut que ça soit à cheval entre 2 ou 3 pays européens.
Alors, l'idée, c'est donc 70 000 hectares.
C'est-à-dire 35 000 dans chaque
côté.
Pays. C'est pas si grand que ça.
On n'y touche plus, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors on commence par supprimer toute trace d'activité humaine. On retire les pistes, on retire les panneaux pédagogiques que je déteste, on retire les bancs. Il y a des trucs qui...
Vous inquiétez pas, c'est Francis Allais, ça. Oui, d'accord. Bon. Oui.
Non, attends, c'est pas moi. Il y a un livre très important de Jean-Claude Génaud, « La nature malade de la gestion ». Gérer la nature, c'est déjà commencer à la détruire. Foutez-lui la paix.
Bon, alors, on repart d'une forêt, donc on va dire qu'elle est existante quand même. Hein, donc
ah oui, voilà. Plus elle sera vieille,
mieux
ce sera.
Bon, non. Alors, on retire, on a compris, donc, de tout
toute
ça.
Toute trace humaine, on retire, et ensuite, on ne fait plus rien. Ouais. Mais c'est très dur pour beaucoup de gens.
Donc, l'idée, ça va être quoi ? De laisser pendant X siècles ?
Alors, je voudrais d'abord dire que 70 000 hectares, on me dit souvent, mais c'est gigantesque. Non ! Ça veut simplement dire que ce qu'on a concédé à l'écologie jusqu'à présent, c'était beaucoup trop petit. 70 000 hectares, ça c'est une surface qui a été éprouvée puisqu'elle est copiée sur Białowieża, où il y avait toute la grande faune de la forêt primaire d'Europe. Attends, il y a 70 000 hectares qui est le centre, mais il y aura une zone tampon, buffer zone comme disent les Anglais, autour, où les choses vont continuer. Puis il y aura, on va pouvoir chasser et couper du bois, pas de problème. C'est le projet tel que je l'ai imaginé et tel qu'on le défend maintenant avec mon association, c'est un patrimoine pour les générations futures. On voudrait laisser à nos descendants quelque chose de mieux que ce qu'on a trouvé nous. On n'a pas trouvé de forêt primaire en Europe. Ça m'a beaucoup manqué. Et ben voilà, on va laisser ça au suivant.
Tu sais, en principe, ça t'arme. Il doit rester.
Que tu crois ? On abat toujours les arbres. On dit qu'on les conserverait sous un prétexte quelconque. En une heure, hop, on les abat, ni vu ni connu. Il y a toujours une bonne raison. Les accès, les canalisations, les lignes électriques, la vue qu'il bouge, comme si la plus belle vue n'était pas celle d'un arbre.
Mais même si cet arbre reste, comme je l'espère, il est vieux, on sera obligé de l'abattre.
Eh bien, un autre le remplacera. Si on faisait comme autrefois, on prévoirait de planter les arbres à l'avance, pour les générations futures.
Ce qui est important pour vous, pour arriver donc, à se trouver donc, une voie, une ligne de crête, une issue de secours, prenez le mot que vous voulez, c'est aussi le changement de regard sur le vivant.
Un point important, c'est que si on veut voir la beauté du vivant, il faut un passeur. Un enfant, tout gamin, qu'on met dans la forêt, je ne dis pas qu'il va avoir peur, parce que ça ne fait pas peur, mais il ne va pas voir la beauté. Jusqu'à ce qu'un copain ou un parent bien intentionné ou un enseignant lui dise « Ah, regarde ça, cette coccinelle, est-ce qu'elle n'est pas belle ?» Ah, alors là, il l'oubliera jamais, de toute sa vie, sans effort.
Grand merci à vous, cher Francis Allais, nous avoir fait découvrir à la fois vos petits bouts de Montpellier, votre jardin... Cet engagement, parce que c'est quand même un engagement, on est obligé aujourd'hui quand même de se battre un peu, ça va pas de soi.
Si on se bat pas, c'est qu'on est d'accord avec la destruction.
Ah, très intéressant, parce qu'en fait il y a les destructeurs d'un côté, là on sait de quel camp ils sont, il y a effectivement ceux qui s'engagent, et puis entre les deux, il y a ceux qui font rien, c'est quand même la grosse masse.
Hein. La grosse masse, oui, qui ne pense pas que ce qu'ils pourraient faire pourrait servir à quelque chose. C'est effectivement les majoritaires, ça. Mais là aussi, je suis pas pessimiste. Je pense que petit à petit, ça va gagner dans cette espèce de ventre mou, là. Ils vont réaliser qu'il vaut mieux être du côté des protecteurs que du côté des destructeurs. Ça vient.
Au revoir Francis Allais, et puis à très très bientôt.
Merci Denis de ta visite, ça m'a fait grand plaisir.
Partagé par tous bon. Et surtout par nos amis qui nous écoutent. À bientôt Francis.
Eh ben oui, il nous fait du bien. Moi, je vous renvoie d'ailleurs donc sur le site de l'Association pour une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Et puis à cet ouvrage aux éditions Actes Sud, hein, signé Dominique Agnel, qui vient de sortir, Francis Allais, Les vies heureuses du botaniste. La semaine prochaine, on change de lieu. Ouais, on va se retrouver en Lozère, où ça, sur le Causse-Méjean, avec des chevaux de Przewalski, mais pas que. Donc le Causse-Méjean, on n'en parle pas beaucoup. Eh ben, c'est l'occasion. Ce sera de nouveau une page de notre herbier de paysage. Merci à Claire Bomberman, à Pierre Chabert et Andrea Lechêne qui a réalisé et colorisé cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end.